Voilà, salutations distinguées aux uns aux autres et bienvenue à cette émission dédiée donc à l'entrepreneuriat pratique. Aujourd'hui, un nouveau thème en cette nouvelle semaine. Nous allons aujourd'hui explorer les secteurs en pleine expansion et aux multiples opportunités, l'agriculture. Et on va parler donc de l'agri-business. Saviez-vous que l'agriculture représente non seulement un pilier de l'économie mondiale, mais aussi une voie prometteuse pour les entrepreneurs en quête d'impact et de rentabilité? La question vous est posée. D'ailleurs, près de 80 millions de terres arables pour la République démocratique du Congo. Je crois que ça nous offre beaucoup d'opportunités comme entrepreneurs d'investir donc dans ces domaines. Nous parlons avec vous, coach Gabriel, bonjour.
Bonjour, frère Maxime.
Voilà, nous parlons des opportunités, hein, comment chercher, trouver des opportunités dans ces domaines agricoles, comment faire de l'entrepreneuriat agricole ou agribusiness.
Business, c'est ou ça. Agripreneuriat, il y a plusieurs
terminologies. Voilà.
Oui.
Voilà. Allez, de quoi il est question d'abord? C'est quoi agribusiness? C'est quoi l'entrepreneuriat agricole?
Bon, d'abord, toujours dans, comme nous sommes dans une émission pratique qui est l'entrepreneuriat pratique, nous donnons d'abord le pourquoi du sujet, hein, le thème, pourquoi nous avons choisi ce thème ici. Nous avons choisi les thèmes parce que quand nous regardons les informations, nous écoutons les gens en train de parler, ils disent que la RDC qui a... Vous venez de dire ça, frère Maxime, que c'est la RDC a 80 millions de terres arables. C'est-à-dire nous avons de l'espace, nous avons des terres pour nourrir suffisamment la population, nos communautés. Mais on constate qu'il y a... à Lingala, on dit boulembou. Hein, il y a, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça dit il y a le boulembou, il y a une faiblesse qui habite certaines de nos populations qui, avec les terres arables que nous avons, et que nous pouvons mourir de faim, et qu'on peut dire qu'en RDC, il y a des communautés, il y a des provinces où des gens sont... mal nutris, hein, des gens ont des difficultés. Alors nous disons non, mais c'est une façon de sensibiliser, hein, cette population, les chrétiens catholiques, la population d'une manière générale, que nous avons des terres arables et que nous pouvons utiliser ces terres-là. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'il faut apprendre comment est-ce que ça se fait, n'est-ce pas, pour que nous puissions utiliser dûment les sols, les terres que Dieu nous a données. Dieu a béni la RDC, Dieu nous a bénis avec 80 millions de terres arables et que nous sommes vraiment obligés de dire merci à ces dieux-là et de bien utiliser les sols, les terres que Dieu nous a données pour nourrir la communauté. Donc nous parlons de... Le thème d'aujourd'hui concerne l'opportunité d'investir dans l'entrepreneuriat agricole ou agro-business. On peut appeler ça agri-business, agro-business, agri-prenariat, ou soit l'agriculture agricole. Maintenant, c'est quoi l'agriculture agricole? C'est l'ensemble des activités économiques et commerciales liées à l'agriculture. C'est-à-dire, nous avons ici les mots entrepreneuriat, qui est le processus de création d'entreprise pour répondre aux besoins de la société, de la communauté, à travers la création d'une entreprise. C'est-à-dire une entreprise vient résoudre le problème de la communauté. Maintenant, l'agriculture, c'est utiliser la terre, utiliser le sol pour produire les aliments. N'est-ce pas? Ça peut être à travers... les plantes, ça peut être à travers l'élevage ou l'agriculture. Maintenant, cette agriculture-là a des principes, a de méthodes. Donc, nous disons que l'entrepreneuriat agricole, c'est l'ensemble des activités économiques et commerciales liées à l'agriculture. Ce que l'homme produit, n'est-ce pas? Comment est-ce que ce que l'homme est produit arrive à être conservé, arrive à être transformé et à être commercialisé? Et là, nous allons parler des trois piliers de l'entrepreneuriat agricole. C'est quoi l'entrepreneuriat agricole? Donc, c'est une opportunité pour ceux ou celles qui souhaitent exploiter les richesses de la terre tout en adoptant des pratiques durables. C'est-à-dire c'est la combinaison de l'agriculture et de l'entrepreneuriat. Et cela s'est fait à travers la création et la gestion d'entreprises agricoles. Mais cela implique l'application d'idées, des compétences et des technologies innovantes pour créer ou améliorer des produits, des services ou des processus agricole. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? Pourquoi nous devons utiliser... Avant de parler des objectifs, il y a trois piliers. Il y a la production, ce qu'il faut produire, la terre, le sol, il faut produire pour que nous ayons des aliments. Après la production, il y a la transformation. C'est pas la transformation. Après la transformation, il y a la commercialisation. Nous avons trouvé, surtout le maman maraîchère, qu'on appelle des maraîchères ou des petits exploitants agricoles, hein, ou ceux qui font l'agriculture vivrière, c'est pas pour la subsistance. Nous trouvons que ces mamans, quand ils font par exemple les légumes, ils amènent ça sur le marché. Et vous allez voir que peut-être que ça s'abîme facilement et les gens n'achètent pas. Parce qu'il y a, et nous avons constaté qu'il y a produire, conserver ou transformer, et il y a aussi la commercialisation. Mais dans la commercialisation, comme elles n'ont pas des connaissances approfondies, et ça arrive que leur produit s'abîme facilement. Donc, raison pour laquelle nous avons trois piliers dans l'entrepreneuriat agricole. Nous avons la production, hein, vous produisez les maïs, les manioc, et il y a la transformation, vous pouvez vendre ce que vous avez produit. Vous voulez transformer ça, il y a aussi des procédés pour la production, pour la transformation. Et nous avons aussi la commercialisation. C'est là où le marketing intervient, c'est là où l'entrepreneuriat intervient pour dire, vous produisez les légumes, oui, vous produisez les manioc, oui, mais quel est le besoin qui est sur le marché pour évacuer ces produits-là? Parce qu'il ne suffit pas de produire. Raison pour laquelle nous parlons de l'agro-business. C'est-à-dire, il y a l'agriculture, il y a la production. Mais au-delà de la production, il y a la commercialisation. Maintenant, l'objectif, c'est quoi dans tout ça? C'est d'abord assurer la sécurité alimentaire et contribuer à la lutte contre la malnutrition, la sécurité alimentaire. C'est aussi développer l'emploi, l'industrie locale et la chaîne de valeur, ajouter une chaîne de valeur dans l'industrie locale. C'est garantir le bien-être de la communauté. Donc, si vous êtes agriculteur, produire ne suffit pas, il faut maintenant conserver ou transformer ce que vous produisez. Mais aussi, l'élément le plus important, c'est la commercialisation. Comment commercialiser ce que vous produisez? Et c'est là où nous entrons dans le dernier point où nous allons parler des étapes à suivre pour investir dans l'agro-business ou investir dans l'agriprenariat, investir dans l'entrepreneuriat agricole. Nous avons dit que l'entrepreneuriat agricole, c'est une activité économique liée à l'agriculture. Je produis, je transforme ou je conserve et je commercialise. Mais l'étape, la première étape à suivre, c'est identification d'opportunités d'affaires. Nous avons dit ça ici. Il ne suffit pas de dire que moi j'aime la terre, moi j'aime le champ, moi j'ai une ferme, mais est-ce que ce que vous produisez répond à un besoin? C'est ça, c'est ici qu'il faut identifier l'opportunité d'affaires. Quel est le besoin de la population dans le milieu que vous êtes pour dire que moi je veux produire le maïs, je veux produire les légumes, je veux faire la pisciculture ou l'élevage de bétail? Est-ce qu'il y a un besoin? On peut dire, il y a une maman qui m'a dit, mais coach, les gens mangent. Les gens mangent, coach. Est-ce que quand les gens mangent, est-ce qu'il faut se demander si les gens vont acheter ça? Oui, les gens mangent, mais les gens mangent quoi? Les gens dans votre milieu ont l'habitude de manger quoi? Vous produisez le maïs dans un milieu où les gens ne mangent pas le maïs, mangent le riz. Et quand les gens n'achètent pas, vous dites que non, il y a un problème. Et nous voyons aussi nos mamans, nos papas qui vont chercher les tatas milim ou le prêtre, le pasteur pour venir prier parce que les gens n'achètent pas les produits. C'est bien, c'est bien que l'homme de Dieu puisse bénir votre activité économique et commerciale. Mais il y a des principes en entrepreneuriat. Quand vous ne répondez pas à ces principes-là, on peut prier, mais si vous êtes dans un milieu où les besoins des gens n'est pas le foufou, n'est pas le manioc, les gens ne vont pas acheter. N'est-ce pas? Donc la première étape, c'est identification d'opportunités d'affaires. Dès que vous avez identifié l'opportunité d'affaires, la deuxième étape, c'est avoir des informations détaillées sur le secteur où vous voulez entreprendre. Quand vous parlez de l'agriculture, vous dites, moi, je veux faire le maïs, moi, je veux faire le riz, moi, je veux faire les légumes, moi, je veux faire les tomates, moi, je suis dans le bétail, moi, je suis dans la pisciculture, n'est-ce pas? Et comment fonctionnent ces secteurs-là? C'est un secteur que vous avez trouvé les gens qui sont déjà là. Il y a la réglementation, il y a les lois qui existent, il y a tout un écosystème qui existe. Et comment fonctionne cet écosystème-là? Et ce sont ces informations qui vont vous donner maintenant la possibilité aussi d'être formé. Ça, c'est la troisième étape, la formation. Il y a deux types de formation ici. La formation sur l'agriculture. Il faut être formé. Il y a des ingénieurs, il y a des agronomes, des gens qui ont étudié pour voir est-ce que le sol que vous avez correspond au type de produit que vous voulez planter ou s'aimer. Est-ce que vous respectez les saisons, n'est-ce pas? Vous respectez les sols, vous respectez tout ça. Donc la formation est très importante quand vous voulez, n'est-ce pas, aller dans le secteur agricole et surtout dans le business ou dans les affaires. La quatrième étape, c'est maintenant, vous êtes formé. Maintenant, il faut faire une étude du marché pour voir est-ce que le produit que moi je veux mettre sur le marché, le produit que moi je vais mettre sur le marché, a des clients potentiels, des clients cibles, des gens qui vont acheter. L'étude du marché. Et l'étude du marché, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller comprendre la tendance du marché, les préférences de la clientèle, les gens qui vont acheter ça. Est-ce qu'ils ont le moyen pour que le produit puisse être évacué facilement? Et cinquième étape, vous élaborez ce que nous appelons le plan d'affaires. C'est un document qui est élaboré. Donc, vraiment, nous parlons de l'entrepreneuriat pratique. Nous disons, un entrepreneur, que ce soit un entrepreneur généraliste ou normal, et un entrepreneur ou agripreneur qui est dans l'entrepreneuriat agricole, c'est obligatoire d'avoir le plan d'affaires. Et le plan d'affaires vous permet de jauger, de mesurer ce que vous allez produire et de présenter ça aux investisseurs. Si vous n'avez pas d'investisseurs, vous ne voulez pas d'investisseurs, vous voulez faire ça vous-même, vous pouvez, mais il faut avoir les plans d'affaires agricoles pour savoir comment est-ce que vous allez produire, quels sont les équipements que vous allez acheter. Vous allez acheter la matière première, tout ça, vous comptabilisez et ces documents sont très importants. Dès que vous avez ces documents-là, vous avez maintenant ce que vous allez faire, c'est à la recherche de financement. Il y a plusieurs façons, on a déjà parlé de ça ici. Le financement, on peut chercher ça avec des banques. Vous pouvez chercher le financement à travers les subventions que l'État donne. Il y a des programmes où l'État donne des subventions en RDC. Il y a aussi des banques qui financent. On a parlé des Procfin ici. On a parlé aussi de banques sur le plan national et international qui sont des institutions de l'Église catholique qui financent. Et dès que vous avez le financement, vous pouvez maintenant formaliser votre entreprise agricole pour avoir ce qu'on appelle le RCSM, qui est le registre des crédits, le registre de commerce et des crédits immobiliers qu'on donne au guichet unique dans des provinces. Si vous n'avez pas le guichet unique, vous avez le tribunal de commerce qui va vous donner ces documents-là pour vous ne pouvez pas évoluer dans l'informel, parce qu'en évoluant dans l'informel, vous n'avez pas d'avantages. Il y a des avantages qui sont destinés aux entrepreneurs qui sont formés. Donc, c'est vraiment très important de se formaliser. Et là, après la formalisation, vous pouvez embaucher le personnel. Vous êtes dans le secteur agricole, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des personnels que vous allez engagée. Et là, avec l'argent, avec le personnel, vous pouvez faire l'acquisition des terres, l'acquisition des matières premières et l'acquisition des équipements. Et à la fin, la dernière étape, vous lancez votre entreprise agricole pour produire, pour transformer et pour commercialiser. Donc, d'une manière succincte, nous pouvons dire que l'entrepreneuriat agricole qu'on appelle l'agriprenariat, l'agribusiness, c'est l'ensemble des activités économiques et commerciales liées à l'agriculture. Et c'est-à-dire la combinaison de l'agriculture et de l'entrepreneuriat. Et maintenant, c'est là, c'est une opportunité pour ceux qui veulent exploiter les richesses de la terre. Et cela se fait à travers la création et la gestion d'entreprises agricoles. Mais nous avons dit aussi que cela implique il faut l'application des idées, des compétences, des technologies. Et là, il faut apprendre. Et nous avons aussi parlé des trois piliers de l'entrepreneuriat agricole. Il y a la production, n'est-ce pas ? Il y a la transformation et il y a aussi, n'est-ce pas, la commercialisation. Donc, d'une manière générale, frère Maxime, ce que nous avons voulu un peu dire, c'est on est dans l'agriculture, on produit, mais ce qu'on produit, on doit commercialiser ça. On doit transformer. C'est là où nous disons l'agribusiness. C'est-à-dire, les produits du champ, les produits des terres, maintenant, vous commercialisez cela. Mais ça doit répondre à un besoin pour que vos produits ne puissent pas s'abîmer comme nous avons l'habitude de le voir.
Merci beaucoup pour votre topo. On va marquer une pause, chers auditeurs. Question pour vous. D'apprêter donc vos questions, vos préoccupations pour les échanges de la deuxième partie de votre émission Entrepreneuriat pratique. Nous parlons de l'entrepreneuriat agricole ou l'agri-business avec l'expert, le coach Gabriel Lomengo. Gina Lusonso, à la technique, on peut avoir encore notre champ Popopo Bouchakitembe, alors qu'on a des forêts ici.
Qu'on n'utilise pas. Et avant le champ, nous sommes dans une série de... Parce que comme on a commencé avec l'agribusiness, la semaine prochaine, nous allons parler de l'agriculture où nous aurons un chrétien aussi qui est ingénieur agronome, nous allons inviter, pour nous parler un peu de notions de base de l'agriculture par rapport aux saisons. Hein? Ouais. Cette saison, je peux produire ça. Cette saison, je ne peux pas produire ça. Et comment traiter, n'est-ce pas, ce que vous êtes en train... Et comment transformer ça, hein? C'est là où nous allons parler aussi de l'agroalimentaire. Parce qu'il faut d'abord produire au champ, oui. Après transformer ça et après commercialiser. Donc, la semaine prochaine, nous sommes déjà en contact avec lui. C'est l'ingénieur Donnel.
Qui viendra donc nous partager ses connaissances.
En tant qu'ingénieur agronome, qui va nous parler maintenant, l'homme de terrain. Et il est sur le terrain, il le fait. Et nous allons discuter comment est-ce que concrètement on peut produire quelque chose en respectant les saisons.
Voilà, très bien. 081 99 66 098. On se retrouve dans une bonne minute. Voilà, opportunité d'investir dans l'entrepreneuriat agricole ou agro-business, c'est le thème au cœur de ce nouveau numéro de votre émission Entrepreneuriat pratique 081 99 66 098, et pour les échanges, vos contributions et vos préoccupations. Alors, coach Gabriel, on vous a écouté. Mais maintenant, quelles sont les tendances? Parce qu'on veut investir dans ces domaines agricoles. Quelles sont les tendances actuelles dans les secteurs agricoles qui pourraient offrir ces opportunités à un investisseur qui veut se lancer? Oui. Actuellement, vous avez vous coachez les gens, oui, qui, oui, veulent aller. Quelles sont les tendances?
Il y a deux façons de découvrir les tendances. D'abord, la première façon, c'est par rapport aux opportunités d'affaires ou aux besoins de la société, de la communauté. Et aussi, deuxième tendance, c'est les priorités du pays. Les priorités du pays. Le pays peut dire, nous avons la crise alimentaire. Ce que le ministère de l'économie, de plan, ces ministères ont une idée sur ce qui nous manque au pays. Raison pour laquelle quand ils invitent les partenaires, les investisseurs disent, nous voulons que vous puissiez investir dans ce secteur. Donc il y a deux tendances ici, il y a les besoins qui se présentent sur le marché, les besoins par rapport à la communauté. Vous êtes dans un coin où il n'y a pas les farines de manioc, il n'y a pas les maïs, il n'y a pas les légumes, il n'y a pas les poissons. Et que ce que nous consommons, ça vient de l'étranger. Vous pouvez dire, bon, pourquoi ce que nous consommons, les poulets que nous consommons, les œufs que nous consommons, les maïs, ça vient de l'étranger. Alors moi, je voudrais investir dans ce secteur. Donc c'est les besoins qui se présentent, les besoins pour développer l'industrie locale. Ça, c'est de un. De deux, c'est maintenant les priorités du pays. Le pays peut dire, bon, nous sommes dans la crise alimentaire, nous sommes dans la crise et on a besoin des investisseurs.
Allez, parce que vous parlez des priorités, je vais vous donner cette phrase qui s'écoute tous les jours, la revanche du sol sur le sous-sol. Je crois que c'est ça, je crois que c'est une priorité pour notre pays.
Oui, c'est une priorité pour
le
pays.
On ne va pas toujours rester dans les mines, je crois qu'il faut maintenant...
Oui, ça, on est, vous entrez dans le domaine de diversifier l'activité économique.
Tout à fait.
Nous avons des pays en Europe qui n'ont pas les diamants, qui n'ont pas les cuivres, mais ils vivent de l'agriculture, ils vivent du tourisme. Mmh. On peut même faire des randonnées de tourisme agricole, aller dans un coin, amener les touristes, les entrepreneurs de Kinshasa, vous les amenez dans une province ou à Goma, dans un territoire, pour aller visiter, pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas investir dans ce secteur? C'est-à-dire une sorte de tourisme entrepreneurial ou agricole pour présenter les sous-sols, les potentialités, le terre que nous avons, parce qu'on a parlé de 80 millions de terres arables que nous avons.
Voilà, ici, pas seulement qu'on puisse dire que c'est 80 millions de terres arables, mais là, il faut investir
dans ces domaines. Il faut exploiter cela. Il faut maintenant des planifications, il faut planifier. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, il y a les tendances, c'est par rapport aux besoins de la communauté, la société, à quoi comme besoin. Et aussi, deuxième tendance, c'est les priorités du pays qui peuvent dire, moi, je veux investir. On est en entrepreneuriat. Et en entrepreneuriat, ce n'est pas le commerce. On ne vient pas investir parce que vous, au village, votre maman faisait le maïs et vous aimez faire l'agriculture de maïs. Ce n'est pas comme ça que ça évolue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une opportunité qui se présente sur le marché. Et cette opportunité peut vous amener à investir ou à produire. Sinon, ce que vous allez produire, les gens ne vont pas acheter. Et nous trouvons cela qu'il y a des aliments et aussi il y a un problème de route. Hein. Il y a des gens
pour
qui
évacuer
produisent.
Aussi les produits.
Oui, ça entre aussi. Il y a des produits qui sont dans des villages, qui sont dans des territoires, qui n'arrivent pas, qui pourrissent parce qu'il n'y a pas de route. Et raison pour laquelle j'ai toujours dit que les entrepreneurs, les agriculteurs se réunissent en réseautage pour réclamer qu'il y ait les conditions. Parce qu'il y a, des préalables. Il y a le problème de la sécurité. Dans des milieux où il y a l'insécurité, vous n'allez pas produire. Dans le milieu où les routes ne sont pas praticables, c'est difficile. Dans le milieu où c'est enclavé, donc, quand nous parlons de l'entrepreneuriat agricole, il y a des préalables qu'il faut que ça soit respecté. Si ces préalables ne sont pas respectés, vous n'allez pas produire. Dans des régions où il y a l'insécurité, c'est difficile de produire. Là où c'est enclavé, c'est-à-dire c'est difficile d'entrer avec des véhicules quand vous avez des équipements, la matière première, c'est enclavé. C'est-à-dire vous faites des longues distances pour aller chercher la matière première. C'est un coût élevé par rapport à ça. Et comme vous n'avez pas prévu le budget pour ça, c'est difficile.
Voilà. Oui, allez-y.
C'est difficile. Donc, je suis en train d'ajouter un élément très capital pour dire que l'entrepreneuriat agricole dépend aussi de l'environnement politique sécuritaire du pays. Et économique aussi.
Très bien.
Pays.
Allez, vous avez évoqué aussi la notion du marché. Alors, quels sont les segments de marché qui présentent les plus forts potentiels de croissance?
Oui, on est, on est, on, on est dans l'agriculture. Dans l'agriculture, aujourd'hui, nous sommes dans un... Et on parle de la crise alimentaire, et surtout dans, un, dans une province où il y a la crise alimentaire, il y a la production de manioc. C'est-à-dire, hein, nous parlons de manioc, nous parlons de la production de feuilles de manioc, nous parlons de maïs, n'est-ce pas? Nous parlons de riz. Et la farine de blé, je n'en parle pas parce que ça vient de l'étranger. Mais quand nous voyons...
Mais on peut aussi tenter.
On peut tenter, il y a des gens qui
parce que nous
font.
Avons des régions où il y a le même climat que là où on est produit
habituellement. Oui, et la semaine prochaine, nous allons inviter l'ingénieur agronome qui sera avec nous, qui va nous expliquer par rapport aux provinces, les sols, quelles sont les provinces qu'on peut, par exemple, planter le manioc, les maïs, par rapport aux régions, par rapport aux saisons. Et lui, il va vraiment nous expliquer. Donc, nous sommes, il y a les priorités à forte croissance, les produits à forte croissance. Nous sommes dans l'agriculture, nous avons les maïs, le manioc, nous avons le feuille de manioc et le blé aussi, on peut en parler. Et nous avons aussi la pisciculture. C'est très important. Aujourd'hui, la pisciculture, c'est un secteur où il y a la scalabilité, vraiment. Quand on parle de la scalabilité, c'est la croissance rapide. Donc, il y a la pisciculture. Et aujourd'hui, avec la pisciculture, vous pouvez faire ça même dans... Moi, je connais des gens qui le font dans leur... Il a construit une maison. Au lieu de mettre des locataires, il a mis des bâches. Hein? On appelle ça pisciculture hors sol. N'est-ce pas? Vous pouvez faire ça dans votre parcelle. Vous pouvez faire ça. Et nous allons aussi inviter un expert en pisciculture pour nous expliquer cela. Il y a aussi l'élevage des animaux, n'est-ce pas? Des poulets, il y a de bétail, n'est-ce pas? Donc, c'est un secteur où on a vraiment besoin de ça. Et surtout, vous voyez, par rapport au fait maintenant, les gens consomment beaucoup. Et que vous allez voir, il y a des autorités qui font des réunions, des rencontres pour voir si les gens, il n'y aura pas de rupture de stock pour ça. Donc l'agriculture, vraiment, l'agro-business est très important pour que nous puissions nourrir la communauté congolaise, nous pouvons nourrir nos sociétés, mais il faut toujours penser aux besoins que vous voulez répondre.
Voilà, aux besoins que vous voulez répondre. Alors là, on parle peut-être de l'évaluation. Hein. Comment évaluer la demande pour un produit agricole spécifique dans un coin ou bien dans une région parce que
tout. Oui, évaluer la demande. Là, il faut faire maintenant l'étude du marché.
Oui.
Nous sommes dans l'étude du marché. L'étude du marché, c'est... Il y a deux façons de faire l'étude du marché. Il y a des cabinets de consultance qui le font, que vous pouvez contracter, payer. Ils vont descendre sur le terrain et ils peuvent le faire. Moi, je suis aussi dans le réseau de coachs professionnels en entrepreneuriat. Nous le faisons aussi. Mais vous-même, l'entrepreneur, vous pouvez le faire aussi, n'est-ce pas? Descendre sur le terrain pour aller vérifier, n'est-ce pas, les tendances du marché. Pour évaluer que dans ces marchés, les gens ont plus besoin de maïs. Dans ce marché, les gens ont plus besoin de poulets. Dans ce marché, les gens ont plus besoin de bétail. C'est-à-dire, c'est cette tendance qui va vous donner pour commencer votre activité. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des difficultés pour évacuer vos produits. Et surtout, si vous êtes dans un milieu enclavé, les produits ne vont pas arriver, par exemple, en ville. Vous êtes dans un territoire, dans un village, ça ne va pas arriver parce que... Ce n'est pas votre rôle de faire les routes, des dessertes agricoles. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Mais quand l'État ne le fait pas, nous devons nous réunir, constituer en réseau une plateforme pour maintenant voir les autorités et dire que nous avons besoin d'évacuer nos produits. Nous n'arrivons pas à évacuer les produits parce que les routes de dessertes agricoles ne nous permettent pas d'évacuer les produits parce que nous sommes dans un milieu où il y a l'insécurité. Nous sommes dans un milieu où il y a des problèmes, des conflits communautaires et cela ne va pas nous aider à aller de l'avant. Donc c'est un peu ça.
Voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons des opportunités d'investir dans l'entrepreneuriat agricole ou l'agro-business. On va écouter cet élément sonore.
Bonjour Maxime, bonjour cher coach, pour cette très belle émission, hein, l'agriculture. Bon, une petite question insolite me vient à l'esprit. Pourquoi selon vous, cher coach, Pourquoi, selon vous, Dieu avait refusé de recevoir le produit des terres lui donné par Caïn, alors que Abel lui avait proposé le produit de l'élevage? Qui dit élevage, on voit le bœuf, hein, Ngombe Amafuta, le mouton, etc., etc. Et Dieu était très content de recevoir ce produit-là de l'élevage plutôt que le produit des terres. Bon,
alors,
j'enchaîne en disant ceci.
Alors.
D'abord, je vous remercie beaucoup pour ce thème, parce que ce thème, apparemment, c'est un peu un thème prophétique aujourd'hui, du fait que Madame la pluie vous a précédé, et qui dit la pluie, c'est un signe, dit la bénédiction. Hein. D'où ma question, peut-on parler de l'agriculture sans parler de l'eau? Et qui dit l'eau, dit, on voit entre guillemets, Madame la pluie, cher coach. Or, le grand débat du moment, c'est vraiment sur le thème eau et agriculture. Donc, l'eau et l'agriculture. Alors, comment privilégier ces deux angles-là, c'est-à-dire l'eau et l'agriculture au même moment? C'est-à-dire, comment gérer la ressource en eau et les outils d'application du droit de l'eau à l'agriculture? Dès lors que l'agriculture, cher coach, est l'un des secteurs économiques qui utilise le plus d'eau à l'état brut, entre guillemets, Madame la pluie. Alors, comment on peut gérer ces deux ressources-là? Et en plus, on voit parfois de fortes pluies, au lieu de venir bénir nos produits agricoles, mais cette forte pluie vient détruire plutôt nos produits agricoles, déraciner même, parce que c'est tellement une forte pluie. Comment gérer tout ça? Et pour enchaîner encore, cher coach, tout le monde veut être bureaucrate ou rêve d'être au bureau, mais ils oublient que ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsqu'on retourne chez soi et qu'il n'y a rien dans nos assiettes, on commence à se gratter la calvitie, comme si on se disait je ne sais pas quoi. Mais que pouvez-vous dire aux Congolais qui aiment être dans des bureaux cravatés, mais qui ne veulent pas aller au champ? D'abord, je m'arrête là, cher coach, pour le moment, je m'arrête là.
Voilà, on va peut-être prendre la deuxième question. La question sur la Bible, on va peut-être réserver ça. Nous ne parlons pas à l'entrepreneuriat ici. Alors, par rapport à sa deuxième question, on est un peu dans les risques et les effets des bords, tout ça. Oui. Comment gérer tout ça, l'eau, tout ça, oui.
L'agriculture a besoin de l'eau, n'est-ce pas, pour nourrir le terre, le sol, et pour bien produire. Maintenant, il y a des pays développés qui ont des programmes de canalisation de l'eau, le programme de production, le programme de planification de la gestion d'eau. Ce que j'allais dire. Il y a des pays qui en ont. Maintenant, il y a même des ministères qui sont créés et nous avons aussi ces programmes ici dans notre pays. Maintenant, comment lier ça à l'agriculture? Quand l'eau de la pluie, parce qu'il y a l'eau de la pluie, n'est-ce pas? Il y a l'eau qui sont dans des rivières. Et maintenant, comment est-ce que ces eaux-là sont gérées, sont canalisées? Ça, c'est le programme qui revient au gouvernement. C'est la responsabilité qui revient au gouvernement avec les différents programmes qu'il a dans ses différents ministères. Ça, c'est son programme. Maintenant, en tant qu'agriculteur, l'agriculteur, maintenant, à son niveau, il doit être informé sur les saisons. À quelle saison, pendant quelle période, moi, je peux faire l'agriculture pour que cette période-là soit une période où on n'a pas rupture d'eau, on a l'eau suffisamment pour faire ça. Et ça, c'est la formation qui est très importante, qui doit être suivie pour que ce que je veux faire puisse répondre vraiment à cette gestion. Donc, il y a des provinces où les gens conservent l'eau, n'est-ce pas? Ils font des digues Hein, ils conservent, j'ai déjà vu des documentaires, la conservation, la gestion d'eau. Maintenant, la grande partie revient au gouvernement, à l'État. Et nous ne sommes pas ici comme leur porte-parole pour parler d'eux. Nous disons qu'il y a des programmes qui se font. Alors, en RDC, si ça s'est fait, ça c'est une question que peut-être je vais poser un jour aux autorités pour voir qu'est-ce qu'ils font. Il y a même une direction nationale au ministère de l'Environnement qui s'occupe de l'eau.
Oui, je vais bien, mais nous sommes dans un pays où il pleut presque toute l'année,
il pleut presque toute l'année. Il pleut.
On a seulement 2 ou 3 mois de saison
sèche. Il pleut. Maintenant, dans les endroits où l'eau n'est pas canalisée,
oui,
ça détruit les champs.
Mais comme investisseur, est-ce qu'on doit toujours laisser tout cela à la charge d'un gouvernement comme
non, mais ça va demander...
Moi, je vais investir dans l'agriculture.
Oui, maintenant, dans le plan d'affaires...
Alors, oui.
Dans le plan d'affaires, oui, si vous êtes dans un milieu où l'eau n'est pas canalisée, dans le plan d'affaires, il faut qu'il y ait un coût par rapport à ça.
Oui.
Parce qu'il faut qu'il y ait des tracteurs, il faut faire des digues, on appelle ça digues, pour protéger, pour canaliser, pour garder. Donc ça, il faut planifier ça dans votre plan d'affaires pour qu'il y ait un budget de surplus par rapport à ça, à la gestion d'eau. Ça, c'est la réponse que je peux donner.
Il y a dans certains pays où j'ai visité, par-ci, par-là, où on crée des lacs artificiels pour retenir un peu l'eau.
Pour retenir,
quand
très
on
bien.
Est dans les domaines de
même au désert, il y a des pays qui le font. En Égypte, il y a des pays. Oui, il y a des pays qui le font déjà.
On plante les riz.
Maintenant, en tant qu'entrepreneur, ça demande énormément de moyens financiers. Est-ce que nos agriculteurs ont suffisamment de moyens pour le faire? Je ne crois pas. Raison pour laquelle je dis, en s'associant, en étant membre d'un réseau, en étant dans des associations, on peut amener ses plaidoyers, on peut faire des lobbying au niveau des partenaires, on peut faire des lobbying au niveau de l'État. Moi, je ne citerai pas, il y a des programmes de financement pour les agriculteurs. Je crois à la fin, on va donner le numéro, on peut partager ça même dans le groupe. J'ai 3 programmes où on finance même les agripreneurs dans le domaine de l'agriculture. Ce sont des subventions. On vous donne, vous ne remboursez pas. Mais comme on ne va pas faire la publicité ici, c'est en dehors des institutions catholiques, nous allons vraiment parler de ça. Et il a posé une question où il dit, tout le monde veut être au bureau. Est-ce qu'il faut que les gens soient au bureau? Les gens ne veulent pas faire l'agriculture. On ne va pas imposer. C'est un problème de métier. Et dans la profession, c'est la liberté de choix. Ce sont des gens qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Il y a quelqu'un qui est allé à l'université pour travailler dans un
bureau. Mais ils peuvent être aussi au bureau, avoir des lopins de terre
Maxime,
à Maloukou.
Pas... Oui,
moi, je connais des gens qui travaillent en ville, mais qui ont des étendues.
Oui, on peut donner conseil aux gens qui sont dans des bureaux pour dire, nous avons des terres, vous avez un peu de moyens. Alors, achetez des fermes, achetez des terres et faites l'agriculture. Les conseils on peut donner, éveiller cette conscience, on peut dire ça, que nous avons des terres. Alors, ne restez pas seulement au bureau, vous devez aussi produire pour nourrir le pays. Donc, dans ce sens-là, on peut donner ces conseils.
Et surtout qu'on a une économie qui est extravertie.
Très bien. Oui, nous dépendons de l'étranger, des mines, des ressources minières.
Oui.
Maintenant, il faut diversifier l'activité économique. L'agriculture, l'agro-business fait partie des éléments pour diversifier l'agro-business.
Très bien, merci beaucoup. On va aussi écouter cet élément sonore.
Bonjour Maxime, bonjour coach. Alors, je viens suivre votre émission. Moi, c'est Madame Bertie Tekitila. Je suis aussi entrepreneur agricole, actrice en développement durable. J'aimerais savoir les défis, si le coach peut nous donner les défis auxquels font face les agriculteurs ou bien les agribusiness. Et par rapport à la réalité de notre pays, quelles sont les solutions qu'ils proposent? Merci.
Merci beaucoup, maman. Allez, coach.
Oui, d'abord, moi, je voudrais féliciter les agriculteurs, les agripreneurs congolais qui travaillent dans des difficultés énormes. Vraiment, ils travaillent dans des difficultés énormes. Parce que le premier défi, le problème, c'est quoi? C'est le manque de moyens. Le moyen manque. Et on n'a pas un programme qui est généralisé au niveau national pour financer les agriculteurs. Il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est peu. Le peu que l'État donne n'arrive pas à tout le monde. Et il y a des provinces où ces programmes n'arrivent pas. Je connais les programmes de financement du gouvernement congolais. Il y a des provinces où ça n'arrive pas. J'étais à Chuapa, j'étais à Boende. Vous allez voir comment les agriculteurs sont en train de travailler, à travers c'est-à-dire une agriculture de subsistance. Le défi, c'est il manque un peu de tout. Les moyens, il manque des moyens. Il y a aussi, aussi les problèmes de connaissances approfondies sur le domaine. Parce que nous sommes dans l'agriculture des vivrières, on appelle des petits exploitants. Ils sont là parce que c'est maman qui m'a montré comment on fait ça. Moi, je continue à faire pour survivre. Mais ils n'arrivent pas à quitter l'agriculture vivrière, des subsistances, à l'agriculture industrielle.
Alors, comment faire cette mutation-là?
Oui, la mutation, c'est le réseautage. Parce qu'individuellement, c'est difficile. Et les banques ne donnent pas de financement. Les banques commerciales ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'une banque commerciale fait le business aussi.
Surtout que la Sofide n'existe
oui,
plus.
Oui, ne donne pas une. On n'a pas de banque. La solution peut-être avec l'État.
Des banques agricoles comme ailleurs.
De créer des banques agricoles dans chaque province pour permettre aux agriculteurs d'avoir le financement. Parce que ce n'est pas les moyens qui manquent en RDC. Les moyens, nous en avons. Mais c'est la politique qui est mise en place qui pose problème. Et il faudrait qu'il y ait des banques. Et là, j'entame des solutions. Les agriculteurs doivent se réunir en association pour voir les autorités et frapper des portes, faire des lobbying. Parce que quand vous êtes assis, vous avez croisé les bras, l'État ne va pas venir vers vous. Et l'État traite avec des associations. L'État ne traite pas avec des individus. N'est-ce pas? Moi, je suis très content parce qu'au sein de l'Église, on a commencé avec le RECAGET. Nous attendons l'autorisation de notre vicaire judiciaire. Et au sein de l'Église, nous allons mettre avec l'abbé aumônier, d'abord au niveau de Kinshasa, nous allons mettre un vaste programme des entrepreneurs, des agripreneurs catholiques, n'est-ce pas? L'une des solutions, c'est aussi au sein de l'Église. L'Église encourage toujours l'agripreneuriat, l'entrepreneuriat. Et il y a des projets que nous sommes en train de réfléchir maintenant là. Le statut, tout ça, c'est au niveau du vicariat judiciaire de l'Église. Et nous attendons. Et la solution aussi, ça sera qu'au niveau de l'Église, nous allons commencer des formations, nous allons commencer de visites dans les paroisses pour que nous puissions former les entrepreneurs catholiques, les agripreneurs. Et là, nous allons faire vraiment un effort pour voir ensemble au sein de l'Église que nous puissions développer ce secteur-là qui est vraiment oublié.
Voilà, mais pendant ce temps, les questions se posent toujours.
Pas de problème.
Par exemple,
les défis, j'ai répondu
du frère Norbert. Merci beaucoup, cette belle émission. Ma question est la suivante. Quelle gérance qu'un homme qui veut vendre ses produits agricoles peut pratiquer pour qu'il ait une vie fiable au niveau de sa famille? Le frère Norbert qui pose
le frère
cette question.
Norbert, nous avons dit d'abord, parce qu'avant de vendre, vous allez produire. Avant de produire, il faut connaître le besoin, le marché, l'étude du marché. Parce que quand vous produisez et que vous n'avez pas fait l'étude du marché, quand vous avez produit les maïs, les manioc, ou vous élevez des poissons, ou vous élevez des poulets, vous n'avez pas fait une étude du marché. Vous ne connaissez pas les clients potentiels, le client payant ou les clients qui paient, ça sera difficile d'avoir un chiffre, d'augmenter toujours votre business avec augmenter les chiffres d'affaires ou avoir la scalabilité ou la croissance rapide. Donc, la meilleure façon de gérer votre business, votre agro-business, c'est de produire selon le besoin du marché et mettre en place une stratégie de marketing pour évacuer ces produits-là. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de marché. Moi, j'ai vu de gens qui viennent de Maluku. Nous sommes à Kinshasa. Ils viennent de Maluku pour venir vendre. Ils mettent ça dans une voiture, le produit, les légumes, les tomates. Ils vendent ça. Les gens achètent, n'est-ce pas? Les gens achètent. Mais c'est question maintenant d'étudier le marché, hein, de voir quels sont les marchés où il y a vraiment besoin de ces produits-là. Parce qu'il ne suffit pas de produits. Il faut une stratégie de marketing. Il faut connaître le marché, il faut connaître les tendances, et on connaît les tendances du marché en faisant l'étude du marché.
Voilà, je vois par exemple quand j'étais encore à Kintambo, c'est ces jeunes-là qui achetaient les Missili, les Chikwangs, ils venaient vendre à Kintambo autour de 16 heures à bord de leur Jeep. Ils avaient les mégaphones, ils appelaient
Maxime,
à tue-tête
même
là.
Même dans nos paroisses, on peut les faire. Tout à fait. Moi, j'ai dit à un ami qui est curé, j'ai dit, mais Sango, pourquoi ne pas réunir les jeunes de Bilenga à Mouinda?
Mais les séminaristes le font. Quand ils viennent dans des paroisses, ils viennent vendre les légumes qu'ils plantent.
Oui, les séminaristes font de l'agriprenariat. Ils le font à Saint-Cagua. Nous avons des séminaires où ils vendent. Mais pourquoi nous allons faire ça? Pourquoi les Bilenga à Mouinda, les gens qui sont dans des mouvements, les jeunes, ne peuvent pas se réunir en groupe pour dire... La paroisse a un espace qu'on peut faire même les légumes là-bas et les dimanches, vendre ça après la messe. On a des produits que nous pouvons vendre les dimanches après la messe. Quand les mamans sortent, les gens sortent de la paroisse. Vous avez votre table là-bas. Vous vendez des légumes, vous vendez des tomates. Vous pouvez vendre. Je sais qu'il y a des paroisses qui le font. Mais faisons cette activité-là. Ça va aider les paroisses. Ça va aider nos communautés pour... lutter contre la crise alimentaire.
Voilà. Alors, on va poser peut-être une question, deux ou trois questions sur l'innovation, parce que on peut aussi dire comment les nouvelles technologies peuvent transformer donc, les paysages aussi de l'agro-business.
C'est ici que moi, je vois le rôle des universités, frère Maxime. Je suis un peu déçu par le rôle que les universités jouent dans notre pays. Parce que l'université, c'est alma mater, ce n'est pas seulement pour les cours magistraux. C'est aussi pour répondre aux besoins de la société. Surtout les universités, les instituts techniques supérieurs qui peuvent... Vous imaginez qu'il y a des entrepreneurs qui continuent à acheter des machines pour l'agriculture dans des pays étrangers. Alors que nous avons des instituts supérieurs. Moi, je vis à Goma. Goma, je vous dis, l'entrepreneuriat est développé. L'entrepreneuriat est développé. Je vis un jeune qui a fabriqué une machine. Il y a même des jeunes qui fabriquent des voitures. Une machine pour couper les herbes. Une machine pour... C'est-à-dire, c'est la Chine qui nous fournit des machines, la technologie que nous utilisons en agriculture, surtout en RDC.
Oui.
Pourquoi est-ce que nos universités, nos chercheurs ne puissent pas... C'est là où moi je dis, la technologie, la nouvelle technologie, il faut qu'il y ait une symbiose entre l'université, les chercheurs, le technicien, le professeur, avec le monde réel, les machines que nous pouvons utiliser. Je vais vous étonner. Les machines pour faire le thé là de Lipton, le thé. Nous n'avons pas de machines ici. Et les entrepreneurs achètent ça ou soit en Afrique du Sud ou soit en Chine. Mais nous avons l'ISTA, nous avons la faculté catholique, nous avons des universités.
Alors, je voulais pas qu'on puisse lancer ces débats. On va peut-être mettre en cause un peu aussi la formation aussi. Ou bien on n'a pas le sens de l'innovation, je ne sais pas.
L'innovation, c'est ça que je vous dis. Oui, je suis en train d'insister là-dessus. Oui. L'essence de l'innovation, il faut qu'il y ait quelqu'un en leader à la matière. Alors, ce sont des institutions, des instituts supérieurs, des universités, des chercheurs qui doivent apporter les innovations pour que nous disons, nous avons des machines fabriquées en RDC pour planter les maïs, par exemple. Aujourd'hui, les riz, en Chine, il y a des machines. On plante les riz après quelques mois. On va récolter les riz. Le même jour, on récolte. On va mettre ça quelque part pour chauffer ça et moudre ça. Le même jour, vous tirez les riz au champ. Et le soir, vous pouvez consommer ça, vous pouvez manger ça.
Très bien. Allez, on va continuer, chers auditeurs, dans cette émission. Nous parlons des opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, c'est pas l'agro-business. Et quel rôle donc joue la durabilité et l'innovation dans la création d'opportunités On est toujours là aussi.
Le rôle, la
durabilité et l'innovation, oui. Dans les secteurs d'opportunités d'investissement dans l'agro-business.
La durabilité, ça c'est la recherche scientifique qui joue un rôle très important des chercheurs pour nous apporter cette durabilité, cette innovation, cette technologie. Je vais prendre un exemple de l'agro. Je vais prendre l'exemple de l'agroalimentaire. Vous fabriquez, une entrepreneur qui fabrique qui conserve les légumes de pondou, le fait de manioc.
Oui.
Maintenant, elle a des problèmes pour la conservation. C'est le fait de manioc pilé, conservé. Ces feuilles-là, les pondous-là, pour elle, c'est 2 semaines seulement de conservation, le conditionnement. Mais elle est allée dans d'autres pays africains, il a trouvé que c'est 1 année de conservation. Maintenant, moi, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu dois faire pour que ce pondou-là puisse arriver à 1 année de conservation? Il dit, mais coach, moi, je ne suis pas expert. Moi, je dis, pourquoi tu ne t'associes pas aux chimistes, aux physiciens, aux chercheurs de nos universités? Ils sont là. C'est aussi question de formation. Vous avez parlé de la formation. Les entrepreneurs aussi manquent cette vision d'innovation. La conservation. Nous avons un problème sérieux. Vous allez voir que les gens qui vendent des jus là, et le jus change même de couleur avant que la personne achète. Parce que la coloration n'est pas bien traitée, parce que la personne n'a pas de nouvelles technologies de la conservation, du conditionnement. Et son problème, c'est produire et mettre sur le marché. Donc, la durabilité des produits dépend de la recherche scientifique en la matière. Nous avons le ministère de l'Agriculture avec des chercheurs qui sont là. Est-ce que les entrepreneurs aussi les approchent? Est-ce que les entrepreneurs parlent avec nous, les coachs? Moi, je fais partie d'un réseau. La semaine prochaine, nous allons inviter un expert. C'est un agronome qui sera ici avec nous pour nous expliquer, l'ingénieur Donnel, qui va nous expliquer tout ça. Donc, c'est-à-dire, les conseils que je veux donner aux entrepreneurs, c'est de se rapprocher des experts. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi la recherche scientifique. L'agribusiness, c'est aussi la recherche scientifique. Cherchons des chercheurs, cherchons des gens qui sont en la matière, qui connaissent le domaine, pour nous aider à savoir comment est-ce que le produit que nous produisons, si je peux me répéter, puisse avoir cette durabilité-là.
Très bien. Allez, peut-être une dernière question de Geoffrey de Marie qui revient encore.
Merci, coach. Une dernière petite question. Aujourd'hui, à l'époque de nos parents, et d'ailleurs pour le moment même dans nos fins fonds du village là-bas, dans nos villages, on n'utilisait pas les engrais chimiques. Les Occidentaux nous amènent des engrais chimiques en termes... il y a des engrais chimiques, il y a les engrais des animaux, les engrais organiques. Est-ce que tout ça, lorsqu'on commence à appliquer tout ça à nos terres, alors que nos terres, jadis, nous produisaient sans ces engrais chimiques-là, est-ce que ce n'est pas un signe de la malédiction? Ce n'est pas un signe de sécheresse? Merci, cher coach.
Voilà, merci beaucoup, oui. Geoffrey de Marie. Coach, oui.
Oui, je ne parlerai pas de la malédiction. Le problème des engrais chimiques, c'est ça dépend des pays qui adoptent ça. Et surtout des pays où il y a le contrôle, qui contrôle la production. Il y a des inspecteurs qui viennent pour contrôler tout ce que nous produisons. Maintenant, quand on est dans un pays où ce contrôle-là ne se fait pas, c'est très compliqué. Là, vous entrez dans le domaine des types d'agriculture, n'est-ce pas? Et les types de d'agriculture, où nous avons... l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, nous avons l'agriculture raisonnée et l'agriculture durable. Et là, ça dépend de politique agricole de chaque pays. Chaque pays a sa politique agricole. La RDC, c'est un État, c'est un pays qui a sa politique agricole. Et maintenant, il faudrait savoir quelle est la politique agricole de la RDC par rapport aux engrais chimiques. Est-ce que ces engrais, parce qu'il faut, ces engrais chimiques sont acceptés dans notre pays, oui ou non, n'est-ce pas? Et je voudrais qu'on garde cette question-là. Nous allons parler ça avec l'expert qui sera avec nous le lundi prochain pour vraiment entrer en profondeur sur la production agricole de tout ça.
Très bien, voilà, donc on est arrivé au terminus. En un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir du thème du jour? On a sensibilisé sur opportunités à investir dans l'entrepreneuriat agricole. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Ce qu'on peut retenir est que l'entrepreneuriat agricole est une opportunité qui permet aux chrétiens, aux citoyens, à tout Congolais, de faire de l'agriculture, de produire, de transformer et de commercialiser. Alors, raison pour laquelle nous disons que l'entrepreneuriat agricole, c'est l'ensemble des l'ensemble d'activités économiques et commerciales liées à l'agriculture. Ce que vous produisez là, comment vous les produisez? Vous les produisez selon quel besoin? Est-ce qu'il y a un besoin il y a un besoin sur le marché pour produire cela? Parce que si vous faites cela sans tenir compte du besoin, sans tenir compte du marché, vos produits peuvent s'abîmer facilement. Et nous avons aussi dit que l'entrepreneuriat agricole est une opportunité pour les gens qui exploitent les richesses de la terre. Et cela se fait grâce à travers la création et la gestion d'entreprises agricoles. Mais cela implique des compétences, n'est-ce pas? Des compétences agricoles, des compétences entrepreneuriales, raison pour laquelle nous avons dit il faut apprendre. Vous êtes dans un domaine où il y a des gens qui ont étudié à l'université, qui font ce travail, il faut apprendre. Et raison pour laquelle le lundi prochain, nous serons avec un ingénieur agronome, M. Donnel, qui va nous parler de la production agricole, comment respecter les saisons. Si vous êtes dans telle province, est-ce que quand vous produisez ça, est-ce que ça va tenir? Et quelles sont les cultures qui peuvent être produites selon les provinces, selon les saisons et selon les périodes.
Merci beaucoup, expert Gabriel, coach Gabriel Obengo, pour cette intervention. Nous vous remercions, chers auditeurs. On se retrouve donc avec ces rendez-vous. Nous aurons un expert donc, dans les domaines agricoles qui va nous donner encore de la matière. Grand merci à Gina Lousson, ce qui nous a permis d'arriver chez vous. Restez-nous fidèles. D'ici 20h, vous aurez cette émission en podcast dans notre site internet, le www.radiomaria.cd. Et vous pouvez nous suivre aussi en rediffusion, si vous n'avez pas
les moyens. Dans le groupe WhatsApp,
on les mettra aussi, si vous avez un peu de crédit. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez suivre l'émission en rediffusion dimanche à 10h du matin.
Ceux ou celles qui veulent nous intégrer le groupe WhatsApp, c'est 082 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0032 0
beaucoup. Là, donc, les débats sont en continu. Restez nos fidèles. D'un moment à l'autre, la catéchèse du jour. Merci à Gina qui nous a permis d'arriver chez vous. Au revoir.
Merci, Gina.